Bien le bonjour, nous sommes toujours sur Radio Campus 93.3, c'est toujours Onda Bulle, on est toujours au FIBD, donc 2017, et après toutes ces interviews de dessinateurs, de scénaristes, de mangaka, il est temps de passer à une autre catégorie, le journaliste, radio, papier, vidéaste, mais surtout explorateur de curiosités de notre monde. Je veux bien entendu parler de Patrick Beau. Bonjour Patrick.
Bonjour.
Alors bon, cette petite introduction, elle est peut-être pas tout à fait complète, est-ce que tu pourrais peut-être expliquer un peu plus ton travail ?
Et ben donc j'ai commencé par la radio il y a une dizaine d'années, voilà, donc j'étais sur Radio Campus moi aussi, mais c'était Radio Campus Avignon. J'avais une émission hebdomadaire qui s'appelait Exocet, dans laquelle je racontais des histoires extraordinaires, et quand l'émission s'est arrêtée en 2008, j'ai continué pour le plaisir et l'enrichissement personnel à collecter des histoires que j'ai recommencé à partager en 2009, donc quand j'ai ouvert le blog Axolot, qui est ensuite devenu un livre en 2012, donc L'homme qui sauva le monde et autres sources d'étonnement, et que j'ai décliné par la suite en chaîne YouTube en 2013, donc voilà la chaîne Axolot. Et depuis 2014, donc Axolot est aussi devenu une série de bandes dessinées. Et donc là, je suis à Angoulême pour dédicacer le troisième volume qui est sorti au mois de novembre.
C'est bien. Comment a commencé cette idée de compiler un peu des sources d'étonnement ? C'était une vraie vocation ?
Et ben moi j'ai toujours aimé m'étonner et m'émerveiller, donc c'est un thème qui m'a toujours fasciné, qui m'a toujours attiré. Et c'est quand j'ai commencé la radio vraiment que j'ai commencé à collecter de manière systématique, donc chaque semaine des histoires pour alimenter l'émission de radio. Et puis j'ai continué sur cette lancée. Et aujourd'hui Axolot, le projet Axolot me permet de partager toutes ces découvertes à travers divers supports. Donc comme tu le disais, qu'il s'agisse de vidéos ou de bandes dessinées ou de livres, mais voilà, ça part d'un goût personnel pour l'étonnement et d'une envie de partager ce que je découvre.
Donc, tu l'as dit, ton actualité récente concerne donc le troisième volume d'Axolot qui vient de sortir donc chez Éditions Delcourt. Quel est ton rôle dans cette anthologie ? Comment contactes-tu les auteurs ? Est-ce que tu travailles sur l'élaboration des scénarios ?
Eh ben, en fait, à la base, ça part des histoires qui me semblent les plus adaptables en bande dessinée, que je suggère aux auteurs. Donc c'est des histoires dont j'ai parfois parlé en vidéo ou dans le premier livre, et que j'imagine bien adaptées en dessin. Donc je les soumets aux dessinateurs, et chacun donc choisit l'histoire qu'il a le plus envie d'adapter, qui l'inspire le plus, avec laquelle il se sent en phase. Et ensuite donc c'est différent selon les cas. Généralement il y a plusieurs allers-retours entre le dessinateur et moi. On peaufine la forme, les dialogues, la chute. Parfois dès le premier jet c'est impeccable, puisque l'idée c'est vraiment que les dessinateurs s'approprient les histoires pour pouvoir les faire découvrir sous un autre angle, et donc qui peuvent du coup s'écarter du matériau de base, puisque après chaque histoire, moi j'écris une note, une page sur laquelle donc je rappelle les faits originaux. Ce qui fait voilà, que certains peuvent extrapoler à partir de l'histoire, d'autres sont très fidèles au récit d'origine. Mais donc voilà, généralement ça se passe comme ça.
On peut noter quand même une collaboration très particulière avec Boulet. Comment tu l'as rencontré ?
Alors Boulet, je connaissais son travail, j'aimais beaucoup ce qu'il faisait, et en 2012, quand j'ai adapté en bouquin les articles du blog Axolot, il y a 7 dessinateurs qui ont accepté d'illustrer, donc gracieusement, je le précise, le bouquin, mais c'est pas moi qui ai demandé, j'aurais jamais osé demander ça, c'est par le biais d'Adrien Méniel, donc mon ami Adrien Méniel, qui était dessinateur, qui l'est toujours, mais qui aujourd'hui donc est davantage dans la scénarisation et la comédie, mais qui donc, il y a quelques années de ça, était d'abord dessinateur, et c'est lui qui, semble le dire, avait proposé à plusieurs dessinateurs, dont Boulet, d'illustrer le livre d'Axolot, puisque c'était un livre auto-édité que j'ai entièrement réalisé, y compris la maquette du coup, et je me demandais comment est-ce que j'allais illustrer les histoires, et donc Adrien m'a fait cette surprise, et donc voilà, il y a 7 dessinateurs qui étaient lecteurs du blog, donc je l'ai appris à l'occasion, qui ont tout de suite répondu présent pour illustrer le bouquin, et donc il y a Marion Montaigne aussi notamment, qui était là.
Tu mourras mal bête.
Voilà, exactement, Manu Larsonnet aussi, donc ça avait été
un peu la classe.
Voilà, un honneur et une grande surprise de savoir qu'il était lecteur du blog. Et puis du coup, quand on a sorti le premier volume d'Axolot, la BD, tout naturellement j'ai proposé au dessinateur qui avait déjà participé au bouquin, dont Boulet, et lui donc, il savait pas quelle histoire adapter. Donc c'est moi qui lui ai proposé le Turc mécanique sur le premier volume, parce que je trouvais que c'était parfaitement approprié à son univers, puisqu'il aime, il aime bien les histoires en costume, donc avec beaucoup de fantastique dedans. Et pour le troisième volume, du coup, je lui ai proposé une histoire, donc pareil, qui était dans la même veine, une histoire en costume, qui s'est passée au 19e siècle, et donc qui est pétrie de fantastique et même de paranormal d'ailleurs, et donc il s'en est tiré avec brio, comme toujours.
D'accord. Pour la sortie de ce troisième volume, il y a eu également, on a entendu pour la première fois Axolotl parler.
Ah oui, c'est vrai.
Et il parle en aztèque. Et je me demandais si c'était une référence à Julio Cortázar et aux armes secrètes, et il y a sa nouvelle qui s'appelle donc justement Axolotl.
Alors non, mais alors l'explication c'est que, en fait, quand j'ai commencé à réfléchir à ce teaser, je me suis dit déjà que ce serait pas mal de mettre l'axolotl en avant, que ce serait pas mal de le faire parler, mais pour moi, la question de sa voix était très délicate, parce que j'avais pensé à le doubler moi-même, mais ça aurait été bizarre, ça collait pas vraiment avec le personnage, et je me disais que c'était très important de bien choisir, parce que c'est quelque chose qui va poursuivre le personnage, quoi. Si il parle à nouveau plus tard, il faudra que ce soit cette voix-là. Donc je me suis dit que ce serait pas mal qu'il ait une voix, enfin en tout cas qu'il ait un langage qui ne puisse pas être compris. Au début j'avais pensé à des onomatopées, quelque chose de mignon, j'avais pensé à des sons très, très aquatiques, comme s'il parlait sous l'eau. Et puis au final, pardon, je me suis dit que l'idéal, ce serait qu'il parle en nahuatl, donc c'est de l'ancien aztèque, d'où vient le mot axolotl. Et donc, du coup, il y avait à la fois le côté langage étrange, exotique, qui peut être pris pour un langage imaginaire d'ailleurs, donc il y a le côté onomatopée, et de l'autre, il y a une cohérence directe avec le nom axolotl, puisque c'est du nahuatl, la langue dont vient le mot axolotl. Et alors pour la petite histoire, finalement c'est quand même moi qui le double, puisque la voix de l'axolotl c'est moi, dont je me suis accéléré, je me suis retouché un petit peu, mais donc c'est moi.
Donc tu rejoins Disney qui avait doublé pendant très très longtemps Mickey à ses débuts.
Bah voilà, donc toute proportion gardée, voilà, c'est un peu ça. Ouais, ouais.
Je te souhaite la même carrière.
Oui, j'espère aussi.
Donc, mais plus sérieusement, pour revenir un peu, je voulais en fait rebondir par rapport à l'idée de Julio Cortázar, c'est que tu avais fait aussi des sur le site Axolotl, on peut trouver donc tes anciennes émissions et notamment aussi des lectures de nouvelles. Ouais. Tu as jamais eu envie justement de la faire, celle de Julio Cortázar, ou est-ce que c'est des choses que tu continues à faire tout simplement?
Eh ben, écoute, je vais te dire. Alors la nouvelle, je la connais, mais je l'ai jamais lue. Faudrait que je le fasse. Alors, il me semble que il y en a une qui s'appelle Axolotl Roadkill, ou c'est un roman même carrément.
C'est possible.
Il y a plusieurs bouquins comme ça qui ont Axolotl dans le titre. Et donc la nouvelle de Cortázar, ça fait longtemps que je l'ai de côté, mais je l'ai pas encore lue. Alors pourquoi pas? Pourquoi pas si la nouvelle me plaît? Et bon, le truc c'est que les nouvelles que je lis sur le podcast sur SoundCloud, c'est des nouvelles assez brèves. Là, bon, je connais pas la longueur de l'histoire, mais il me semble que
elle est assez courte.
Assez courte.
Et ben pourquoi pas, peut-être, faudrait que je la lise.
Ouais. Un futur teaser peut-être, sait-on jamais. La tête de pont donc du vaisseau Axolotl, j'ai envie de dire que c'est quand même les vidéos, et donc que ce soit en collaboration avec le Louvre ou avec d'autres participants, l'original ou des choses comme ça. Mmh. Comment tu arrives à gérer en fait d'un média à l'autre? Est-ce que c'est facile de trouver comment écrire
Ben en fait, tout part de la découverte des histoires, donc je passe beaucoup de temps à chercher sur tous les supports possibles, hein, donc papier, internet, documentaire, et quand je découvre une histoire ou un fait, un personnage, un lieu qui m'étonne, qui m'émerveille ou qui me fascine, je le mets de côté, je m'assure de son authenticité en recoupant les sources, etc. Et une fois que je sais que l'histoire, le fait, le lieu est bien réel, je décide ce que j'en fais, si j'en parle dans une vidéo, si je le mets de côté pour la BD, pour un livre éventuel. Et donc voilà, ça se fait au feeling. Parfois il y a des histoires dont je sens qu'elles sont très adaptées pour la BD, donc je les garde. Et bah là par exemple, j'en ai découvert une que je vais pas spoiler là, hein, que j'ai découvert récemment, qui est incroyable, que je vais adapter pour les exoportraits, donc la série de vidéos sur les portraits de personnages inconnus avec des destins extraordinaires, et que je garderai aussi pour Axolotl 4, parce que je pense qu'il y a un potentiel énorme d'illustration quoi, sur cette histoire.
D'accord. J'en reviens aussi donc à la bande dessinée. La bande dessinée en magazine a une grande tradition qu'on prenne sur différents supports, c'est justement d'avoir des articles étonnants, beaucoup d'artistes comme Bono Landry par exemple, je pense à lui en particulier, ont fait des premiers articles. C'est des artistes, c'est les gens qui ont influencé peut-être, qui ont lancé un peu le Axolot et Exocet.
Alors, donc pour Landry, oui, c'est vrai que je sais que dans Flux Glacial, il avait une chronique où il parlait justement de trucs insolites et tout ça. Mais alors, je connais son travail. Mais j'ai jamais été trop lecteur de Fluide, donc je sais qu'il a fait ça, mais disons que je l'ai plutôt appris après coup, quoi. Justement parce qu'on m'a dit, ah bah tiens, t'as déjà lu le bouquin de Landry machin, donc il se trouve que je l'avais pas lu, mais donc, en fait, j'ai pas vraiment, je m'en rends compte, quoi, d'inspiration précise, ça part d'une envie de partager les choses qui m'étonnent tout simplement, et c'est vrai que bon, il y a pas mal de gens, enfin on compare souvent à Belmar, on dit que je suis un peu Belmar 2.0. Je trouve que dans les histoires qui sont choisies, il y a aussi un portrait en creux de l'auteur, quoi. C'est forcément des histoires qui correspondent à nos sensibilités, à nos centres d'intérêt. C'est pas un hasard tout ça, il y a toujours une ligne qui finit par se dessiner. Je m'en aperçois en fait avec le recul sur Axolot, il y a quand même quelque chose qui sous-tend toutes ces histoires, qui les relie finalement. Donc voilà, je pense que même si je suis loin d'être le seul à être passionné comme ça par les histoires insolites, dans le choix des récits, il y a une identité qui se dessine, ouais.
Et donc, pour finir, j'ai une question qui fâche. Attention, c'est très sérieux. Qu'est-ce qu'on peut faire dans un repas de famille, quelqu'un pour faire son intéressant ressort des anecdotes mot pour mot d'Axolot ? Et Dieu sait qu'il y en a. Est-ce que tu as une solution contre ça ?
Tu as vécu ça, personnellement ?
Bien sûr. C'est moi, souvent.
Eh bien, écoute, tant que personne ne le remarque, tout va bien.
D'accord.
Si quelqu'un le fait remarquer, je pense qu'il vaut mieux l'admettre. Hein. Vaut mieux l'admettre plutôt que de faire preuve de mauvaise foi. Mais moi, en tout cas, je suis très très flatté que les gens se servent des histoires, soit pour animer les repas de famille, soit pour briser la glace, ou même en rendez-vous. Et parfois même, j'ai des gens qui me disent qu'ils ont utilisé des histoires dans des devoirs, dans des mémoires, dans des thèses parfois. Bon, je suis très flatté de ça, et tant mieux, voilà, si ça peut donner des idées aux gens, si ça peut inspirer les gens, je ne peux pas demander mieux.
Écoutez, c'est très bien. Je terminerai avec une petite citation de Maurice Cornelis Escher. Je suppose que c'est un artiste que tu apprécies énormément.
Alors, tu m'as dit Maurice, comment ?
Maurice Cornelis Escher, donc le fameux graveur.
Escher, d'accord, oui, d'accord. Oui.
Et donc, qui avait dit « L'étonnement est le sel de la terre ». C'est une citation à réfléchir.
Eh ben, je suis tout à fait d'accord. Et il y a beaucoup, beaucoup de citations comme ça, à base d'étonnement, que j'aime beaucoup. Une que je cite souvent, c'est une citation d'Isaac Asimov, qui disait la phrase la plus importante en science, c'est pas « Eureka », mais tiens, c'est bizarre. Et Aristote aussi, qui disait que la science consiste à passer d'un étonnement à un autre. Je suis très d'accord avec ça. Je pense que l'étonnement, notre faculté d'étonnement, c'est le moteur caché du monde.
Bien, écoutez, voilà une citation à garder et à méditer. Merci encore à Patrick.
Merci à toi.
À très bientôt.